18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche 18h, 20h sur les antennes de Beurre FM. J'essaie juste, voilà, de bien écouter ma voix. En tous les cas, comme vous le savez, ce rendez-vous hebdomadaire, c'est celui de l'actualité au sens large du terme, puisque nous sommes intéressés à la fois aux coupes africaines, aux joueurs, donc au moral aussi de certains joueurs. Mais également, j'ai voulu, à travers cette émission aujourd'hui, revenir sur le rôle de l'éducateur dans le dans les jeunes catégories, le message qu'il doit inculquer, le savoir qu'il doit transmettre, etc. Sans oublier les compétitions africaines qui ont pris leur droit au niveau des clubs. Et bien entendu, on fera le point sur les joueurs en forme et en méforme. Et pour cette émission, comme vous le savez, tous les dimanches matin, c'est avec Fodil et avec notre coach national, Monsieur Nasser Sandiak.
Jusqu'à 20h, Fou de sport sur Beurre FM. Beurre FM.
Forcément que quand on est aussi pointu et aussi perspicace, c'est bien avoir cette analyse chaque dimanche, c'est aussi un très grand plaisir. Bonsoir coach.
Bon, ah, je suis surpris, je pensais que t'allais... Bref, non, très bien, bonsoir. Bonsoir Fodil, bonsoir à tous les auditeurs, surtout les premiers, les plus importants. Ouais, bah t'as vu, l'actualité est riche. Hein. C'est riche et c'est sous-jacent, on va dire. Il y a tellement de choses qui se passent. Mais il y a un rythme là, je suis plus là. Les matchs tous les trois jours là, je suis plus.
Justement, as-tu vu?
Ouais, j'ai pas compris que Marseille et PSG ont joué. Sauf qu'on m'a dit que mercredi, ils refusaient la Coupe d'Europe.
C'est ça, c'est pour ça, ouais.
Oh là là, bah. T'as vu ce que c'est que l'usine et l'esclavage, c'est ça?
Ouais. Ça, oui, parce que, Nasser, on parle de football professionnel. Bon, ouais. D'abord, je vais saluer quand même Fodil. Voilà. Bonsoir Fodil.
Bonsoir Mohand, bonsoir à tous.
Bon, alors. L'actualité est très chargée. Avant de commencer par le foot, je voudrais quand même ouvrir cette émission par une parenthèse tennis.
Ah oui.
Franchement, même si elle a perdu en finale face à la numéro 1 mondiale, c'est juste Fodil. Toi, t'as passé carrément la nuit devant ta télé pour regarder le match entre Swiatek et Ons Jabeur. Voilà. Deux finales de Grand Chelem perdues, ça veut dire que, à un moment ou à un autre, je pense que cette jeune Tunisienne finira par en gagner un. Elle a perdu Wimbledon, elle a perdu le Chengimido. Pour la simple et bonne raison, c'est que.
Je pense que la troisième sera la bonne.
Elle est encore trop émotive.
À quel âge cette fille?
27 ans.
Ouais.
Magnifique.
Ouais. Magnifique. Alors, surtout qu'en demi-finale, elle a fait exploser Caroline Garcia.
Ouais, j'ai vu.
Et Caroline Garcia qui revient en forme.
Oui. Mais là, face à Ons Jabeur, elle a dit bon, bah, j'ai pas tenu. Voilà.
Ouais. Mais surtout que c'est qu'elle explique bien un peu le staff qu'il y a avec elle. Hein. C'est des Tunisiens comme elle. Hein. C'est des coachs qui ne sont pas renommés. Quand on en est à faire deux finales de.
Du Grand Chelem, là, ça.
C'est, oui. C'est énorme. Énormissime.
Ah, il faut expliquer, Fodil, à nos auditeurs que dans le monde du tennis, il n'y a que quatre Grand Chelem.
Ouais.
Il faut les dire. Australie, Roland Garros, Wimbledon, États-Unis. C'est tout. Après, le reste, c'est des grands prix, mais qui n'ont rien à voir avec le statut de Grand Chelem.
Ouais. Ah ouais.
Et ce qui fait vraiment plaisir à Mohand, coach, c'est que juste après le match, elle avait dit « Je sais que je fais partie de ces joueuses qui vont gagner un Grand Chelem un jour. »
Ah,
dire,
ça
c'est quelqu'un
plaisir,
de très positif dans la vie.
Ouais.
Et je pense que la prochaine sera la bonne pour elle.
Alors, pourquoi je dis ça, Fodil? Je ne sais pas si tu l'as remarqué. C'est une fille, apparemment, qui aime les surfaces rapides. Autant sur Roland Garros, elle n'était pas vraiment là dans le dernier carré. Par contre,
non, à Roland Garros, elle était un peu. Je pense qu'elle n'était pas assez prête pour ce tournoi parce que c'était. Elle avait un planning un peu chargé, un calendrier très très chargé entre les tournois qui ont succédé à Roland Garros. Et c'est pour ça, mais là on voit que Ons Jabeur est vraiment à la hauteur parce que là pour l'instant elle est 5e mondiale et je pense qu'elle va remonter dans le classement. Elle a joué, il faut le rappeler, Swiatek qui est la première mondiale.
Tout à fait, il faut le dire.
Voilà,
ouais.
Elle est très 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 forte et quand même elle a réussi à se hisser en finale et tout le mérite lui revient parce que je pense que la prochaine ça sera la bonne pour elle.
Tu sais quoi, à quel Grand Prix, je pense, tu es un fan de cette joueuse.
Oui, je suis très très fan d'elle parce que c'est quelqu'un de très modeste.
Ouais.
Ouais, comme, et j'aimerais bien un jour l'avoir ici avec nous, pourquoi pas, si jamais.
Oui, quand l'occasion va se présenter, qu'elle sera.
L'occasion est déjà là, peut-être.
Hein. Oui. Quand elle sera sur Paris, tout simplement.
Ouais. Non, ouais. Par téléphone, je pense.
Oui, par téléphone. Oui, on pourra. Par téléphone, je te laisse le loisir de la.
C'est déjà fait.
C'est déjà fait. Oh, tu vas trop vite, toi. il va plus vite. Mais Nasser a souligné un fait important, c'est le staff technique qui est tunisien aussi. C'est, ouais. Parce que souvent, on fait appel à de grands coachs, etc.
Elle est managée aussi par son mari.
En plus.
Ouais, donc, pas vu, hein.
Oui, il la connaît très bien. Après, peut-être que...
je ne la connais pas.
Oui, non, mais je suis logique dans mes propos.
Non, je sais.
Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'à un moment donné, on avait parlé avec Foudil de ce problème émotionnel. Elle est trop émotionnelle comme fille. Alors peut-être qu'elle aura besoin d'un coach mental pour essayer de vaincre un petit peu ses émotions et franchir ce cap. Elle arrive dans les finales, il n'y a pas de souci. Mais arriver en finale, justement, il manque ce petit quelque chose pour...
Ah ouais, mais ce petit quelque chose, c'est ce qui fait la différence entre le premier et le deuxième.
Oui.
C'est souvent ça qui fait la différence. Mais surtout, c'est ce qui surprend un peu, j'allais dire, la junte... du sport de haut niveau, c'est que le staff qui est compris n'ont pas une formation de très haut niveau. Donc, ce sont des gens qui viennent avec quels sont leurs outils. Moi, j'aimerais bien connaître son parcours à cette femme pour qu'elle en arrive là. C'est quand même qu'elle a mis du temps pour arriver déjà, puisqu'il y a 27 ans.
Oui.
Mais bon, c'est parce qu'il y a eu des freins, sûrement qu'il y a dû avoir des freins.
Des blessures, oui.
Et là, on va voir pour une fille du Maghreb. Arriver dans les 4 premiers mondiaux.
C'est une première, Nasser.
Tu touches quand même une activité qui est très prisée, parce que le tennis aujourd'hui, c'est quelque chose. Et là, elle démontre que, voilà, elle a battu la française, quelque chose qu'on n'a pas ici, et elle fait la finale. Après, maintenant, il faut lui laisser le temps un peu d'intégrer, parce qu'après, c'est toujours des détails qui manquent à ces niveaux-là. C'est vraiment des petits détails, mais des détails qui sont très, très, très importants. Et là, il faut qu'elle les trouve. C'est ce qui a flanché. C'est pas que sur le plan mental, hein. C'est aussi sur la gestion du public, la gestion du stress. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui fait que l'émotionnel ne prend peut-être pas le prix, parce qu'elle a joué quand même.
Oui, oui.
Elle s'est pas retrouvée en demi-finale, elle a plié la française 6-1 le premier set.
Ouais, c'est ça.
Mais c'était un truc de fou.
Ouais.
Donc c'est pour dire que c'est pas obligatoirement ça. Par exemple, c'est peut-être à son staff de travailler autour, de voir qu'est-ce qui a manqué pour que. Sûrement, il a dû manquer des choses, hein. Parce que c'est un staff comme ça tunisien qui vient là, ils n'ont pas cette rigueur et ce cadre qu'ils mettent en place pour des demi-finales, tu vois, sur les grandes choses. Quand tu vois les sœurs Williams, quand tu sais après comment son père travaille derrière avec son coach et tout, tu te rends compte qu'il y avait un énorme travail, mais vraiment. Hein.
Moi je la vois bien dans le Grand Prix, enfin dans le Grand Chelem plutôt australien, puisque généralement la saison commence toujours là-bas en Australie. C'est une surface rapide, un peu comme celle de Wimbledon, ça y ressemble. Et visiblement, elle aime ces surfaces-là. Alors peut-être le déclic commencera par l'Australie, pourquoi pas.
Non, avant l'Australie, déjà, Mohand, il y a un tournoi qui l'attend, c'est un tournoi de WTA qui aura lieu en Tunisie du 3 au 9 octobre.
Oui, mais
c'est un tournoi qui aura lieu chez elle.
Oui.
Ça fera plaisir à sa communauté, ça fera plaisir au Maghreb aussi, à tous les Maghrébins. En revanche, elle a un mariage aussi de son frère. Il attend la semaine prochaine, ça lui fera le plus grand bien.
D'accord.
Histoire de passer à autre chose.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que le tournoi en Tunisie, ça reste un tournoi, mais quand je parle de tournoi, moi je parle des tournois majeurs, parce que l'Australie, c'est le premier tournoi majeur de la saison, qui démarre la saison du tennis mondial.
C'est ça le plus dur à faire, c'est gagner les finales, pas d'y arriver, c'est comme le sommet, c'est pas d'y arriver, d'être là-haut qui est le plus important, c'est de s'y maintenir. C'est s'y maintenir, attention, ça demande autre chose. Y aller, ça demande certaines choses qu'il faut à tout prix avoir, surtout quand tu viens avec la surprise qu'on ne connaît pas.
Oui.
Mais une fois que tu t'installes là-haut, il faut que tu restes. Et là, on va te regarder si vraiment, ou tu n'es pas éphémère, ou tu es quelque chose qui va se prolonger et qui fait que tu vas gagner des tournois pendant. C'est vrai que les grands, grands joueurs que tu vois qui durent depuis 10 ans ou 15 ans, qui sont toujours à la première place, c'est monstrueux.
Ce qu'il faut. Mais je pense que, en parlant de Nasser Jabeur, pourquoi je me dis que, même si elle a 27 ans aujourd'hui, moi, je pense quand même à des... Nasser, tu te rappelles quand même de ces tenniswomen de l'ancienne génération qui sont quasiment arrivées à la quarantaine. Je pense à Chris Evert, je pense à Martina Navratilova, etc. Et c'est des femmes qui
Serena Williams.
Oui, voilà, c'est Serena Williams. C'est des femmes qui ont passé les mêmes les caps des 36 ans qui gagnent encore. Ouais, ça veut dire que
ils ont gagné jeune, de toute façon. Ils ont gagné jeune.
Oui,
c'est
oui.
C'est au niveau qu'ils a fait. C'est, le, ouais. c'est la première place qu'ils a fait maintenir. Elle arrive quand même à 27 ans.
Oui.
Elle a au moins 4-5 ans pour jusqu'à 31-32. Après,
oui.
Tu sais.
Non, mais l'essentiel c'est que si elle arrive à nous sortir une victoire dans un grand chelem, quel que soit le grand chelem.
Moi, ça me suffit pas une victoire au grand chelem. Faut qu'il reste 4, 5 ans, 10 ans au très haut niveau et qu'il gagne tout le temps le grand chelem. Bien le grand chelem. Qui apprend les grands prix, ça serait une chose. Ça montrerait quand même que le sport, l'exactitude du sport de haut niveau n'est pas aussi pointue que ça.
Bon, avant de parler de football, je reste un petit peu dans le tennis, mais cette fois-ci, faut dire chez les hommes, il y a une nouvelle hiérarchie mondiale qui se dessine, puisque pour la première fois, on n'entend plus parler ni de Djokovic ni de Nadal. Voilà, nous avons Alcaraz et nous avons
Medvedev.
Mais non, l'autre, le Norvégien, là, comment s'appelle
Kyrgios non, Norvégien.
Non, Norvégien. Rud, un nom comme ça.
Rud Kasper.
Rud Kasper, merci. Et voilà.
Finale.
Ce sont les deux, lui et Alcaraz, qui vont faire la finale. Et au classement mondial, le vainqueur passera numéro 1 mondial. Donc c'est quand même.
Au détriment de Medvedev.
Voilà, tout à fait au détriment de Medvedev. Ouais. Et puis Djokovic, le pauvre, comme si le bonhomme a toujours refusé les vaccins. On lui a interdit l'Australie, on lui a interdit les États-Unis. Donc forcément qu'à la fin, il ne peut pas garder son statut. Voilà donc pour cette...
La finale aura lieu à 22h.
Oui, oui.
Ce soir.
Et Fodil va regarder le match.
Je pense que oui.
Non mais Fodil aime le tennis et c'est pour ça d'ailleurs. Moi j'ai compris qu'il a pris attache sûrement avec Hans Jabeur pour une interview dans le cadre de cette émission. C'est avec un grand plaisir... qu'on va l'accueillir, même dans un premier temps par téléphone, puisque si elle se trouve en Tunisie, où elle est peut-être en phase de repos avant de reprendre une nouvelle saison, oui, ce sera beaucoup plus facile.
Juste après le mariage de son frère, je crois.
Non, mais décidément, tu es en train de me préparer de belles surprises, je l'avoue, Fodil. Ouais, ouais. Très bien, alors, bon, ok, bon, super. Alors, on continue toujours après avoir parlé tennis. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans quelques instants, je vais marquer une pause car on va revenir sur un dossier avec coach. On en a parlé depuis le début de semaine qui commence à m'inquiéter. C'est celui du dossier de Youssef Attal. On sait que moi, j'ai regardé quand même à travers les émissions que j'ai écoutées dans les radios, à travers les écrits, etc. Quand même, depuis son arrivée à Nice, Youssef Attal, il a raté l'équivalent de 80 matchs, ce qui est tout simplement considérable. Et c'est vrai qu'avec coach, on s'est souvent posé la question de la santé, la question des problèmes musculaires de Youssef Attal. Restez à l'écoute, on se retrouve dans quelques instants tout de suite.
Foot de sport. Revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Sur Beurre FM.
Je l'ai introduit un petit peu avant la pause. Aujourd'hui, on va quand même s'intéresser au cas Youssef Attal. Nous sommes obligés de nous poser cette question. Est-ce que ce garçon, qu'on a découvert avec la sélection, qu'on a découvert quand il est arrivé à l'OGC Nice, avec cette fougue, cette explosivité, et il a impressionné tout le monde, on le voyait dans les très grands clubs, et au final, comme ça en aparté, lorsque Fodil m'a donné la liste de toutes ses blessures, comme on dit, je suis tombé des nues. Alors Fodil, déjà, combien de blessures a-t-il cumulé depuis son arrivée en France?
Eh bien, Youssef Attal a cumulé 18 blessures depuis 2018 jusqu'à maintenant.
Ouais. 18 blessures en sur 4 ans, c'est un chiffre impressionnant.
Oui, c'est sûr pour une personne qui n'a pas été formée pour le haut niveau. C'est incontournable. Quand tu connais les contraintes du haut niveau et tu connais les intensités, les impacts, ce qu'il y a et le jeu qu'a Attal, ça prédispose à tout ça.
Pour 77 matchs manqués.
77 matchs manqués.
C'est pas un bon roman pour un professionnel, ça.
Bien sûr, oui.
Bah oui. Comme je t'ai dit, c'est que à partir du moment où tu n'es pas formé pour le très haut niveau, que ce soit aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental, bah t'as ce que tu vois là. Et en plus, je pense qu'il y a un problème génétique en plus sur lui, parce que c'est récalcitrant, ça se répète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas s'il a vu vraiment tous les médecins, mais je pense qu'ils ont dû le faire voir tous les médecins, parce que j'allais lui dire, moi, c'est pas Canis que tu as la meilleure médecine, hein. C'est souvent à Paris. Ouais. J'ai pas entendu qu'il a vu des grands professeurs là-dessus, mais je pense qu'ils ont dû vraiment créer. Ils ont vu vraiment son vrai bilan. Son vrai bilan, c'est un problème d'hygiène. Et c'est un problème aussi génétique. Alors, sa fibre ne tient pas. Et comme il a une poussée, il a une tonicité extraordinaire.
Ça.
Et ça pète à chaque fois. Je sais pas son dossier médical, on peut pas en parler. Mais bon, quand ça se répète comme ça, quand c'est récurrent, c'est compliqué. Vraiment. Pour faire une carrière comme ça, après, t'as vu, il te place là, tu es là. Après, il te lâche. Et quand ils vont te lâcher, pour qu'un club te prenne, ça va être très, très compliqué. Hein.
Et 567 jours manqués.
Ouais.
C'est l'équivalent déjà d'une saison et demie
sur 4 ans. Ouais.
Ouais, mais bon, on a connu comme ça dans le passé des joueurs qui ont arrêté à cause des problèmes de blessures, parce qu'ils n'ont pas trouvé la solution. Mais bon, aujourd'hui, avec la médecine qu'on a quand même,
oui.
Je pense que c'est étonnant qu'il passe encore à travers. C'est étonnant ça. Même si on le voit que c'est un petit peu mieux. Tu vois, on sent que c'est un petit peu mieux là. Oui. Il a fait un peu plus de matchs, il a duré un peu plus sur la longueur.
C'est vrai.
Et là, il a quoi là maintenant? C'est quoi aujourd'hui? C'est l'oreille ou c'est les dents? C'est l'épaule?
Ouais, c'est l'épaule. Ouais.
Mais sur ce que j'ai lu, de lui-même, quand il a senti la douleur, il a préféré sortir plutôt que d'avoir la forte tête, de tenir sur le terrain, puis après aggraver son cœur.
Ça n'existe plus ces choses-là. Les joueurs, ils se connaissent bien maintenant.
D'accord.
La moindre alerte, le moindre truc, ils sortent tout de suite. Ils ne prennent même pas le risque. Ils se connaissent parfaitement, ces garçons-là. Ils prendront pas le risque de se péter, et ça va durer deux mois d'un an. Dès qu'ils sentent les frémisses d'un début de quelque chose, hop, ils sortent. Tout de suite, ils se lèvent, ils disent hop, on s'en va. Et voilà, tu dis le cas d'Atal, c'est lié à la nourriture, à la prise en charge, les soins. Quand il était là jusqu'à quand dans les clubs comme ça, quand il a fallu faire le vrai travail de renforcement, de musculation. Il n'a pas pu répondre parce qu'on lui a pas fait. Donc avec le retard.
Ça veut dire, Nasser, si je comprends ton analyse, c'est que au final, tout ça est lié à la formation ou à la pseudo-formation que tu reçois quand tu es jeune. Et quand tu arrives dans le monde du professionnel, surtout le monde de la Ligue 1, qui était très difficile, eh ben, tu vois que ton corps ne suit pas. Et on voit la plupart des joueurs qui viennent de chez nous, souvent, se blessent de manière récurrente.
C'est exactement ça. On ne peut rien rajouter à ça, si ce n'est que... Il faut bien comprendre que dans le domaine médical, aujourd'hui, on est quand même à la pointe. On est capable quand même de faire des analyses et de sortir exactement ce que tu as. Les manquements, du moins. Et Atal, quand il vient avec une grosse générosité, une grosse envie.
C'est vrai.
Explosivité aussi.
Pardon ?
Explosivité aussi.
Voilà, une grosse débauche d'énergie, très explosif. Le problème, c'est qu'il a peut-être des quadris, mais il n'a pas d'ischio. Et ces ischios, c'est eux les freinateurs. Et en général, c'est comme si tu avais une Formule 1.
Explique à nos auditeurs le rôle des ischios. Ouais.
Ben oui, t'as une Ferrari avec des freins de chevaux.
D'accord.
Alors, comment tu vas freiner ? Comment tu freines ? Devant, t'as les quadris qui développent une puissance phénoménale, et derrière, pour freiner, c'est les quadris. Et si tu n'as rien, à chaque fois, ça pète. Parce que c'est pas compensé. Même s'il fait un travail compensatoire, sûrement, là, c'est pas assez. Parce qu'il est très, très tonique, Atal. C'est vraiment, comme les mecs de 100 mètres, hein. C'est des garçons qui, quand ils sont sur 10 mètres, 20 mètres, c'est le feu, hein.
Est-ce que mentalement, il n'est pas en train de se poser quand même des questions sur son avenir?
Bien sûr.
Oui, parce que la Mondialique, là, à sa place, je vais commencer à baliser, quoi.
Il y a longtemps qu'il se pose des questions, j'espère pour lui. Le problème, c'est son parcours de joueur professionnel qui est là. Et on se rappelle, moi, j'ai l'image de la Coupe d'Afrique quand il s'est blessé, quand il est sorti là. Il y a des moments cruciaux, tu sors du terrain. T'es plus fiable. C'est-à-dire qu'à un moment, tu ne deviens plus. C'est-à-dire que même tous les coachs qui voient ça pour les autres se disent, moi, je peux pas mettre ça. Je suis pas fiable. On va faire un match là. Il va me sortir au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. C'est pas possible. C'est ça qui est en train de se coller à lui là, actuellement.
Est-ce que c'est pas aussi, peut-être aujourd'hui, le rôle d'un garçon comme Jamel Belmadi, de lui mettre un vrai concurrent à ce poste-là pour pouvoir aller de l'avant, parce que si à chaque fois il doit compter sur Attal, et puis que ça ne marche pas, aujourd'hui on a un garçon qui est à Lille, qui commence à
qui ne joue pas aussi.
Oui, qui ne joue pas malheureusement, mais qui a été l'un des meilleurs de Ligue 1 l'année dernière à Clermont, c'est Hakim Ziyadka.
Ziyadka, il a besoin aussi de s'adapter à son nouveau système de jeu, parce qu'il débarque dans un nouveau club. Ce qui lui fera plaisir, c'est qu'il y a son coéquipier de la sélection, Adam Ounes, qui est arrivé. Ça veut dire que ça lui fera plus grand plaisir. Mais pour trouver un concurrent à Youssef Attal, il faudrait déjà le trouver.
Trouver un concurrent, je pense qu'il le fait depuis longtemps, hein, puisqu'il nous a fait une liste de latéral droit qui est, on va pas appeler ça des plaisanteries, mais c'était pas loin. Et c'est pas évident de trouver des joueurs de ce profil-là, attention. Hein.
Parce qu'on a du mal quand même à voir la salle, c'est fait ces joueurs latéraux aujourd'hui qui sont de vrais attaquants de soutien pour les milieux, même pour les ailiers. Quoi.
Ah, mais. Tu demandes quoi à un défenseur ? À ton avis, tu lui demandes.
On lui demande de défendre, normalement.
Voilà. Oui. C'est ça la vraie priorité. Oui. Elle est là. Sinon, tu transfères un joueur en offensif, tu le transfères en défensif. C'est ce que font pas mal de clubs. Le problème, c'est que sur le plan défensif, ça va être du rail. Hein. C'est un métier, défenseur, attention. Hein. C'est que vous en prenez des mots. Défenseur, soutien, ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'il soit à 70-80% de défenseur et 20% offensif. Et qu'il ait une qualité de centre, surtout. Et
d'ailleurs, je me souviens du match qu'ils ont disputé à Lille. Lorsque Lille avait ouvert le score, on voit bien que sur le premier but, sur le but lillois, que le geste de Attal n'était pas un geste d'un défenseur. En gros, il a donné carrément comme ça de dos. Je crois que c'était Bamba ou Jonathan David quand il avait ouvert le score. Et là, j'ai bien suivi l'action. Je me suis dit, non, mais là, Attal, c'est pas un geste défensif. C'est juste pour faire acte de présence. Et sur l'action, on voit bien que la qualité de défensive n'y était pas, quoi. Alors, on sait bien que, même en sélection, c'est pas un vrai défenseur, Attal. On l'a remarqué tous.
Oui, mais bon, à partir du moment où il apporte sa touche offensive,
c'est ça.
Il défend, il rapporte sa touche offensive, et dans sa touche, on lui demande si, un, la qualité de pénétration,
oui,
et deux,
ça, il l'a.
Deux, et surtout la qualité de centre.
Ouais.
C'est ça qui nous intéresse. Hein.
Ouais.
Le reste, on n'a pas besoin de voir un latéral aller jouer en numéro 10. C'est pas ça le but du jeu.
D'accord.
Le but du jeu, c'est qu'il défende vraiment, il soit costaud dans les défensivement, ce qu'il a un petit peu moins. Et sur le plan offensif, il apporte le surnom, qu'il apporte le décalage, qu'il apporte la pénétration, et ça suffit largement. Mais ça, on se rend compte qu'il ne peut pas le faire. C'est pour ça que les coachs ont dû l'ont limité dans la crasse. L'ont limité en disant, tu me fais 3-4 montées par mi-temps.
D'accord.
Le reste, tu ne fais pas.
Okay.
Tu ne fais pas. C'est pour ça qu'il a tenu un peu plus longtemps.
Hein. Je l'ai remarqué, effectivement, dans le Genissois, il ne fait pas ce qu'on appelle de montée systématique.
Ouais. Ouais. Mais il faut rappeler aussi que pendant sa première saison sous la houlette de Patrick Vieira, en 2018-2019, Youssef Attal avait sorti une très très belle saison, 39 matchs, 7 buts et une passe décisive. C'est parce qu'il a changé de poste.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Quel poste il a changé ? Non.
Si, il lui a changé de poste pendant sa première saison. Il n'était pas arrière droit. Ouais. Il était sur le côté gauche.
Ouais.
Et ça lui a fait le plus grand bien parce que c'était sa saison la plus aboutie à Nice.
Oui, mais c'est qu'une saison. Et le haut niveau, c'est la répétition. Hein. Tu fais 50-60 matchs par an et tu te reposes 15 jours et tu repars pour 60 matchs. Hein. Et 15 jours, c'est sur la durée que ce qu'on appelle la consistance. La consistance, il est très faible là-dedans. Le corps ne répète pas. Il ne peut pas. Il n'a pas les armes.
Très bien.
Jusqu'à 20h. Fou de sport. Sur Beurre FM. Beurre FM.
Bon, après le cas de Youssef Attal, il y a le cas de qui, à votre avis ?
Youssef Belaïli ?
Ah, Youssef. C'est la descente aux enfers. En quelques semaines, le joueur est absent de la liste de son entraîneur, hein, Michel Derzakarian. Je crois que même...
il n'est pas absent, il était sur le banc.
Hier, il était sur le banc, mais il n'est même pas rentré en jeu. Hein,
sur la liste, il y est.
Oui, sur la liste, il y est. Oui, pardon. Le banc, ça veut dire qu'il n'est même pas rentré en jeu en seconde mi-temps. On l'a vu ces derniers temps également, lors des matchs de championnat, où il n'était pas... Bon, peut-être sur la première et deuxième journée, il était de niveau, mais après, on a senti une vraie baisse de régime chez Youssef Belaïli. Chaque semaine confirme cette baisse de régime. Est-ce que c'est inquiétant pour la suite de la saison?
Ben, les chiens font pas des chats. À partir du moment où t'as pas été formé, que je reviens à la formation, t'as pas été formé, tu viens, ben, rien comme le petit...
Attal,
t'as vu, première saison, c'est tout bon. Et la deuxième, et la troisième, quatrième, plus personne.
C'est ça.
Là, Belaïli, tu revois la même chose. Il est rentré un petit peu au début, non. Après, il est revenu bien, et là, il plonge. Ben, c'est normal. C'est ce qu'on appelle la récupération. Son corps a besoin de récupérer parce qu'il n'est pas prêt, il ne connaît pas cette intensité-là.
La charge de travail de pré-saison.
Il n'y a pas que la charge de travail aussi, coach, parce que si on regarde bien, Youssef Belaïli était quand même décisif pendant les trois premiers matchs, mais à partir de leur défaite face à Montpellier, 7-0, c'est à ce moment-là que toute l'équipe a flanché.
Oui, mais ça n'empêche pas que dans ce qu'il produit, lui, individuellement,
Angers,
dans le match, il ne répond plus aux exigences de l'entraîneur. Si l'entraîneur le met sur le banc, c'est qu'il ne répond plus. Quand il le met une fois, ça va. On va dire il récupère. Deux fois, on va dire il récupère. Mais quand tu as 3, 4, 5 matchs, c'est que c'est une option. Là, ça veut dire que là, maintenant, il faudra te bouger pour que tu reviennes. Donc, il faut qu'il retravaille vraiment pour qu'il reprenne la confiance de l'entraîneur.
Et comment tu le sens, ça, à l'entraînement là? Parce qu'on dit souvent, oui, le coach, il choisit ses joueurs. Mais comment il détecte ça à l'entraînement, que tel joueur mérite sa place plutôt qu'un autre?
C'est une bonne question, ça.
Hey, je me suis toujours posé cette question et j'ai pas eu de réponse et je l'attends de ta part.
Ouais, mais bon, il y a beaucoup de paramètres, hein, beaucoup qui interviennent. Hein.
Ouais.
Beaucoup de paramètres.
Comme?
Comme? On peut dire les pressés.
Non, on va être très grossier dans les propos. Il y a ce que tu sens à l'entraînement quand tu le vois, dans ses courses, dans l'investissement qu'il a à l'entraînement.
Ça, c'est le ressenti de l'entraîneur, alors.
Bien sûr. Alors. Quand tu vois la qualité de jeu qu'il fait à l'entraînement,
oui. Il
réussit, il est très dynamique, il est très explosif, il a envie, il est de l'avant. Là, tu dis, il y a quelque chose qui est intéressant chez lui. En général, les mecs qui ont des statuts un peu plus aisés, eux gèrent. Ils font les choses tranquillement. Mais ceux qui ont besoin de prouver, bah, ils montrent à l'entraîneur qu'ils sont capables. Donc, à l'entraînement, ils s'investissent plein pot dans tout ce qu'ils font. Et tu vois, et là, tu vois les niveaux. Tu as des mecs qui lâchent. Déjà, l'entraînement, ils lâchent.
D'accord.
La répétition, dans les efforts, là, tu vois que le mec il lâche. Parce qu'il sait, oh, je joue pas, pourquoi veux-tu que je m'emmerde ici sur ce terrain-là? Donc ils se lâchent, ils acceptent leur rôle de remplaçant. Et t'as ceux qui sont limites, et ben eux, faut qu'ils montrent à l'œil. Et donc après, on le voit dans la course, dans les appels, sur le plan défensif, à la récup. Là, tu vois, il y a une grande énergie qui est là. Et là, tu dis voilà. Parce qu'en général, on dit, tu t'entraînes comme tu joues. Hein. Faut jamais oublier ça. Hein.
D'accord.
Et quelle est la relation qu'un coach doit avoir avec ses joueurs?
Ben, t'as une multitude de facettes. Parce que t'as tous les hommes qui sont. Chaque homme a sa propre. Son propre caractère, sa propre logique. Donc, faut que toi, tu aies la capacité à entendre. Mais après, le problème, c'est que tu vas pas entendre les doléances des gens. C'est que toi, en ton âme et conscience, ce que tu vas mettre en place, pour toi, c'est ce qui va gagner. C'est ni plus ni ça. Donc, tu vas construire autour de toi un groupe où tu vas gérer, faire de la gestion, du management à l'intérieur. Pour que tous les égos soient remplis et que les gens ne se tirent pas entre eux, où tu puisses lire. Puis t'as des cocos quand même en face de toi, t'as des sacrés cocos, attention. Hein. Et t'as des mecs qui, eux, savent jouer là-dessus et tirer sur les ficelles d'un groupe. Surtout s'ils sentent les joueurs, s'ils sentent que le groupe est faible. Là, tu vois, le mec, il va apparaître, même s'il n'est pas bon dans le jeu, mais il va vouloir jouer le leader, et il ne l'est pas du tout. Il ne l'est pas du tout.
D'accord.
C'est pour ça que tu vois des personnalités comme Messi, t'as vu, Messi, il ne parle pas. Il ne parle nulle part. Par contre, il envoie des intermédiaires, lui, qui vont envoyer les messages au entraîneur. Parce qu'il connaît. C'est très bien ce qu'il a.
Son agent, ouais, son attaché de presse, voilà. Son agent, son attaché de presse, c'est ça?
Ça peut être ça, ça peut être eux, ça peut être autre. Après, c'est des jeux de deux rôles, c'est des jeux, des réseaux. Tu vois, mais comme Neymar, tu sens bien que c'est un garçon que c'est comme un bébé. Faut lui frotter dans le sens du poil. Et par contre, Mbappé, tu sens que lui, il a envie d'aller s'affronter avec l'entraîneur, il a envie d'aller parler avec lui. Tu le sens, ça, tu les vois, les comportements. Et si tu trouves la clé, et c'est ça la force des grands managers, c'est qu'ils ont une clé pour chaque joueur.
Très bien, ben, merci coach pour cette explication. Ensuite, on reviendra au cas Islam Slimani.
Foot de sport. Revient dans un instant sur Beurre FM. À 20h. Sur Beurre FM.
Bon, allez, on avance dans notre discussion et puis, doucement mais sûrement, on avance. Avant de parler d'Islam Cinemani en deuxième heure, j'ai envie de consacrer les 10 prochaines minutes à la JS Kabylie. Est-ce que je devrais dire JS Kabylie ou la JS Tizi Ouzou ou, parce que je ne reconnais plus mon club. Je ne reconnais plus le jeu. Bon, on va chercher aujourd'hui des entraîneurs business, des entraîneurs inconnus au bataillon. Au bout de un match, deux matchs, on les vire sans documents, sans preuve officielle. Et puis on va essayer de recruter comme on peut. Sauf que là également, il va bien falloir se poser des questions face à cette instabilité chronique. Jusqu'où peut aller la JSK? Donc, Nasser, toi, tu as entraîné le club, mais à une époque où tu as connu le défunt président Mouachedef Hnachi, tu as connu également Khalef, tu as connu beaucoup d'autres personnes auparavant. Mais la GSK est devenue aujourd'hui un malade chronique.
Bah, elle est rentrée dans le rang, hein, pour ne pas dire autre chose. Hein, c'est que nous, on a envie, les trois lettres magiques qui sont oui. La GSK restent dans la tête de tout le monde. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de ces trois lettres, c'est le creux, quoi, c'est le vide, ouais. Complètement, mais complètement. Après, il y avait quand même quelque chose qui était très intéressant. C'est quand même une tradition, il y avait quand même une culture, il y avait quand même derrière ça, il y avait quand même le poids et l'histoire de la Kabylie. Et la GSK le représentait bien. C'est pour ça que tout le monde connaît la GSK, il a envie.
Et même sur le continent africain, combien de fois j'ai croisé des amis africains, qu'ils soient ivoiriens, camerounais, guinéens, ils me parlaient que de la GSK.
Bah oui.
Ils connaissent plus la GSK que les autres clubs algériens.
C'est le club le plus titré d'Algérie, donc c'est clair. Après, qu'est-ce qui est devenu ce club-là? Et qu'est-ce qui fait qu'un homme comme Marcherib qui est parti, qui n'a pas préparé du tout son départ? Parce que logiquement, il aurait dû préparer.
C'est peut-être ça aussi son erreur à faire
Marbella. C'est le problème des Algériens en général. Ouais. Pour qu'ils transmettent le savoir, tu peux toujours courir. Hein. Mmh. Il aurait fallu qu'il ait un garçon. Peut-être qu'il aurait fait.
Comme chez les rois. Le roi est mort, vive le roi.
Ben oui, c'est ça. Ah ouais. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours avec les mots, mais le problème, c'est que les gens ont changé.
Oui.
Et vraiment. Et là, quand tu vois ce qui se passe, tu te dis il n'y a que ceux qui sont dedans, qui aiment toujours la GSK, qui soient là ou en bas. Qui peuvent expliquer un peu ce qui se passe, mais là c'est compliqué parce que là tu frôles peut-être pas l'incompétence, mais tu frôles la cohérence, quoi.
Mais Nasser, le pire, je le vois, c'est au niveau de ces fameux critères de recrutement, ouais. Que ce soit auprès des dirigeants, que ce soit pour les joueurs, en gros, on n'arrive même plus à comprendre qui fait quoi dans ce club.
C'est ça, ouais. Bon, en gros, c'est ça. Bah, c'est une formule où on essaie de te mettre des gens, des hommes, et sur des postes à très haut niveau de compétences, et les compétences, il n'y en a pas, l'homme y est, et tu regardes, et les mecs résument tout à rien, quoi. L'équipe s'entraîne, le staff médical, il ric-rac, il n'y a pas tellement de moyens. Tu arrives le jour du match, tu vas manger avec eux, la veille, tu dors, alors il faut gagner, hop, le match fini, hop, tout le monde s'en va, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de...
L'analyse d'après match, etc.
Oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas ce que tu vois aujourd'hui. Parce que ce que j'aurais parlé il y a 20 ans, 30 ans, on ne pouvait pas l'expliquer, mais aujourd'hui on l'est. Tu n'as pas cette vie du club où les joueurs ils viennent le matin à 10h du matin, ils passent la journée au stade, ils travaillent, il n'y a pas tout ça, ça n'existe pas. En Europe, ils sont là-dessus. N'oublie pas qu'en Europe, tous les grands clubs, là, viennent le matin à 9h, 9h30. 9h30, ils se préparent à 11h. S'ils se préparent, ils restent ensemble, ils déjeunent ensemble, ils petit déjeunent ensemble, ils font la séance d'entraînement, ils reviennent déjeuner ensemble, il y a des endroits pour qu'ils fassent la sieste. Si c'est la sieste, c'est bien. Il reste quand même la vie du club et tourne autour de ça, et fait que les garçons sont archi présents. Ils s'en vont le soir, à 17h, 18h, ils rentrent chez eux. Là, nous, il n'y a pas tout ça. T'as les mecs qui viennent, qui repartent, qui sont là. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sensibilité à tout ça.
Oui, le pire, c'est ce que tu viens de dire, c'est surtout l'hygiène de vie, c'est encore pire.
L'hygiène, ça c'est jeune, il y a plein de choses derrière. Il y a l'hygiène, il y a la notion aussi de, du groupe, la vie du groupe, comment elle fonctionne, comment tu l'articules. On sait qu'aujourd'hui, pour créer une cohésion, il faut que les gens vivent ensemble, vivent beaucoup de choses ensemble, c'est clair. Et là, c'est un recrutement qui me semble... Je sais pas qui est parti, peut-être Fonny va nous le dire, parce qu'il s'est spécialisé à GSK, mais je sais pas qui est parti, je sais pas qui est rentré. Par contre, ce que j'ai regardé, moi, j'ai vu une équipe très naïve, hein, mais d'une naïveté. Tu te dis, moi j'ai connu des joueurs à GSK, c'est des liaisons, non, machin, c'est pas...
C'est ça, ouais.
Non, mais c'est des vrais hommes, ouais, avec toi. Hein. Ouais. Tu sentais que t'étais épaulé, qu'il y avait du monde. Là, j'ai regardé, j'ai punaise. Et donc ça va faire miroiter, faire croire que, oui, on arrive, vient. En plus, quand tu fais... Moi, j'ai toujours pas compris, ils ont fini deuxième, puis l'entraîneur qui était là-bas, ils l'ont...
Oui.
Ils l'ont... Alors, j'ai rien compris du tout. On m'a dit, non, ils vont... Ah bon, ouais, ben...
En fait, les licenciements, c'est au gré des humeurs. Hein. C'est même pas par... le type, il vient, il te fait une bonne saison, ouais. Il a réussi son parcours. Non, on va changer, on va ramener un autre. Et pourquoi changer ? Tu as un staff, tu as un groupe qui a fait ses preuves. Bah, pour même la cohésion, tu viens de parler à l'instant de cohésion nationale, c'est bien de maintenir le même groupe une deuxième année. Bon, quand on sait qu'en Europe, si tu réussis une saison, l'année d'après, on te pique tous tes joueurs. Là, c'était pas le cas. Donc, la GSK pouvait quand même espérer mieux.
Je crois quand même qu'il n'y a pas des compétences. Alors, si on veut parler des compétences, on va aller loin.
Bah oui.
Dire, quand on parlait tout à l'heure de l'analyse des matchs et des situations, des gens qui regardent et qui regardent les joueurs, quelle équipe que tu veux mettre et pourquoi on prend ce joueur-là et pourquoi on prend pas celui-là, il faut qu'on se mette sur des critères bien précis. On appelle ça le scouting. T'as des mecs qui sont là, ils en font un métier de ça. Pour regarder, surtout avoir la notion de prédiction. Est-ce que ce qu'il fait là aujourd'hui, c'est bien, mais est-ce que tu penses que sur ce que tu vois, sur ses qualités, ça peut progresser dans ce domaine-là ou dans ce domaine-là? Si ça, t'es capable de le lire, là, c'est bon. Mais nous, il n'y a pas. C'est un mec qui va prendre un joueur qu'il a vu, parce que souvent, il a marqué un but contre la GSK.
C'est ça, oui.
Ils le prennent et tu regardes le joueur, mais c'est quoi ce joueur? Et t'as plein d'erreurs de casting terribles. C'est pour ça que j'ai dit, moi, à un moment, les deux meilleurs recruteurs qu'il y a eu en Algérie, c'était Alik, et le montre encore, mais ça a été au CRB, ouais. Et t'avais Hanachi.
Ouais. C'était,
les deux seuls. Ouais. C'est là, t'es devenu bon à la fin.
Ouais.
Il commençait à devenir bon.
Non, la particularité de ces trois personnages, Sonar, il était arrière droit. Moi, je suis arrière central, ouais. Et Saad Aller, elle était arrière gauche à l'USM.
Bah, tu vois.
Tous les trois des défenseurs.
Habituellement, c'est les milieux de terrain, les vrais.
Ouais, non, mais là, ce sont des défenseurs. Hein,
Ceux qui maîtrisent bien le jeu, c'est les milieux de terrain. Les attaquants, en général, il n'y a pas d'entraîneur. Et les défenseurs, ils sont un petit peu dans la réserve. Mais quand tu regardes, tu te dis, on parle toujours des mêmes choses, tu les vois, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Ça se répète. Et quand tu vois les Marocains, maintenant, on va faire un comparatif.
Ouais, bon, on va y arriver en deuxième heure à la Coupe arabe.
Les Égyptiens. Ouais. Ah, tu vas voir. Bah, viens voir un match du Maroc et viens voir un match algérien, tu vas voir. Tu vas comprendre tout de suite.
En termes de créativité, dans le jeu,
tout,
etc.
Tous les domaines. Bah, ils gagnent les Ligues des Champions, eux. Mm. Les Champions, Coupe de la CAF, ils ont tout pris.
Oui, c'est vrai.
Et t'as rien pris, nous, encore, à ce que je sache.
Et d'ailleurs, pour finir cette partie-là, Nasser. J'ai besoin juste, puisque tu as parlé quand même du Maroc, c'est quand même un entraîneur algérien, Abdelhak Ben Chicha, qui a gagné la Super Coupe d'Afrique, hier la Super Coupe entre le Wydad de Casablanca et la Renaissance de Balkan, c'est Balkan qui a gagné 2-0. Quoi.
Ah bah super,
voilà.
Magnifique.
Donc, félicitations pour Ben Chicha. Bah oui, quand même, il a gagné ce trophée. Moi je trouve que c'est un bon résultat déjà pour lui par rapport à ce qu'il a produit au Maroc, et j'ai de plus en plus d'Algériens maintenant se vont jouer au Maroc ou vont entraîner au Maroc. C'est la nouvelle tendance aujourd'hui.
Le dernier en date, c'est Magaïa Merbah.
Oui, le gardien du CRB, oui.
Ouais. Mais c'est pas d'aujourd'hui hein, qu'ils vont au Maroc. Hein. Ça date de très longtemps qu'ils viennent là-bas, hein. Je te le dis moi. Okay. Ils aiment beaucoup le Maroc. Hein. Et les Marocaines surtout. Mais ils aiment beaucoup le Maroc.
D'accord. Alors ça c'est quand même pourquoi je le signale maintenant, c'est parce que dans la deuxième partie que nous allons consacrer dans un premier temps à la coupe arabe des U17, hein, je précise, entre le Maroc et l'Algérie, bon, il s'est passé des choses sur lesquelles nous allons y revenir, mais je voudrais rester sur l'aspect des grands clubs comme le Wydad de Casablanca, le Raja de la Renaissance de Balkan. Nasser, on l'avait dit carrément en début d'émission, c'est quasiment le grand chelem pour le Maroc. Je parle pas des petites catégories, mais le Wydad qui gagne la Ligue des Champions, la Renaissance de Balkan qui gagne la Coupe de la CAF, la Super Coupe pour l'équipe de Balkan, le dernier Chan qui est gagné par le Maroc, le Maroc qui va faire la Coupe du Monde et nous on va la regarder à la télé. Bon, je pense que la boucle est bouclée, quoi. La réussite elle est là, il n'y a pas de mystère.
Qu'à un moment les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est tout. Après, on fait du sport, on fait pas du théâtre, on n'est pas dans des prestations, on est sur du résultat. Et le résultat, il parle tout seul. Quand tu as un pays qui dans le domaine sportif, qui avance dans tous les domaines et qui, surtout dans le domaine du football, qui est proposeur de solutions, d'idées, de projets, qui construisent, qui invitent les pays, qui, peu importe après les moyens, comment ils ont fait, qui organisent des finales de Ligue des Champions, qui sont là, qui ont des stades, des vrais stades. J'ai vu les stades au Maroc. Personne ne va me raconter à moi. J'ai vu. Je suis resté pendant 9 mois là-bas. Et j'ai fait le tour. J'ai vu les stades. Ils n'ont que des beaux stades. C'est nickel. Et nous, jusqu'à aujourd'hui, on veut faire deux terrains. On est en train de sortir la fanfare de tous les côtés, pour, comme si on allait sortir quelque chose d'extraordinaire.
Bon, pour l'instant, ils ne sont pas encore sortis. Bon, mis à part...
On attend la Marie, on l'attend. Finaise, elle se prépare. Ouais. Mais c'est ça la base aujourd'hui. Quand on parle de l'outil, c'est ça la base qui bloque tout. Si tant que tu n'as pas des stades, des conditions de terrain, des conditions adéquates, sache qu'un joueur, quand il rentre dans un stade, c'est tout l'un ou tout l'autre. Quand il rentre dans des grands stades, sa tête bascule. C'est un autre homme. Quand il rentre dans des stades pourris ou je ne sais plus quoi, eh ben il se met au niveau du stade. Voilà. Et ça, c'est très, très, très important. Un, pour l'image,
oui,
pour beaucoup de choses, pour l'image, surtout pour l'image. Et aujourd'hui, on est en train de dire que voilà.
Oui, Fadil.
Il y a juste la composition de la GSK qui vient tout juste de tomber.
Oui.
Donc, gardien de but, c'est Sidi Salah. Arrière droit, c'est Galmoud. Salahi, arrière gauche, que Nasser, un coach, a lancé. Souyad et Talag, Arag, Mouaki, Oukassi, Ben Bouchanchouch et Gnina, Nezla en attaque.
Alors, ça, c'est le match, il commence maintenant.
Il commence à 19h, dans 4 minutes.
Très bien. As-tu le résultat?
Le match est en direct sur la page officielle de la GSK.
As-tu le résultat du CRB en Ligue des Champions?
Non.
J'ai pas trouvé non plus. Ils étaient censés jouer ce week-end. Je n'ai eu aucune nouvelle sur l'ensemble des réseaux.
Non, je ne l'ai pas.
Très bien. Eh bien, on va chercher, on profitera de la pause pour essayer de trouver le match du CRB en Coupe d'Afrique. Je rappelle quand même, c'est le premier tour préliminaire. Restez à l'écoute, on se retrouve pour la deuxième heure de Foot du Sport. Rapidement,
pour
Diloé.
Pour le CRB, ça sera le samedi 17 septembre. Et non pas ce week-end.
D'accord, donc il y a eu un décalage dans les dates. Merci beaucoup. Fin de cette première heure. Rendez-vous dans quelques minutes pour notamment parler de cette Coupe arabe des U17.
Foot de Sport revient dans un instant sur Beurre FM. 18h, 20h, Foot de Sport avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Deuxième heure de Foot de Sport, c'est parti avec, on va dire, le dossier de cette soirée qui concerne quand même un événement chez les jeunes, c'est la Coupe arabe des U17, remportée par l'Algérie aux dépens du Maroc, avec la séance des tirs au but.
Les dossiers de Foot de Sport.
Bon, messieurs, on avait bien suivi cette compétition, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que l'Algérie se qualifie, c'est souvent au tir au but. Sur, je crois que c'est quart, demi et finale, à chaque fois, c'est au tir au but. Et alors, le gardien, j'ai remarqué, c'est un petit garçon qui est issu de l'immigration, puisque il avait ramené sa grand-mère qui parlait en kabyle à la télévision, tout ça, etc. Elle était au stade de SIG. Je ne sais pas si vous avez suivi ce match. À un moment donné, je vous avoue que moi-même, je me suis dit, ça y est, le Maroc va gagner le match puisqu'il mène 1-0. On était vers la 89e minute. Bah, le match a été retransmis en direct sur YouTube. Je vous le dis tout de suite. Juste, je voulais zapper, regarder un truc et revenir. Le temps de revenir, je vois un partout. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, effectivement, j'ai revu l'action du but égalisateur. On dirait, franchement, le garçon, comment il s'est arraché pour égaliser, c'était magnifique, quoi. Un partout. Puis après, on arrive à cette fameuse séance de tir au but.
Gardien algérien à la Barreca.
Oui, c'est vrai. En fait, il a pas raté le péno. Hein. Deux fois, les Marocains, ils ont tiré dehors. Et à chaque fois, le gardien était prêt à contre-pied. Non, ce qui m'a fait rire, c'est les plongeons des gardiens. C'est vraiment comique. En fait, ils plongent avant le ballon. Ils sont tout le temps prêts à contre-pied. Il se trouve que nos amis marocains ont tiré deux fois en l'air, enfin une fois en l'air, une fois à côté du poteau, et au final, donc l'Algérie s'est imposée. Mais Nasser, qu'est-ce qu'on peut retenir quand même? Bon, c'est une compétition, on va dire. Moi, j'ai écouté Majid Bougra qui disait que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de matchs pour les jeunes de chez nous. Donc là, il y a quand même une espèce de renouveau de compétition, même si c'est au niveau nord-africain ou arabe, etc. Ça fait du bien quand même de voir ces gamins enfin jouer. Alors que pendant des années, on ne voyait même pas ces matchs, Nasser.
T'as exactement dit ce qu'il fallait dire. Au-delà du résultat, c'est plutôt la fréquence des matchs qui devient intéressante, parce qu'enfin, ces garçons-là jouent. Ils font des confrontations internationales. Ouais. Donc, quand on parlait de formation, là, au départ, c'est surtout ça qu'on a besoin. Avoir des garçons qui sont visibles, très jeunes, et qu'on suit leur carrière sur le long terme. Il y a eu 16, eu 17, jusqu'au 22, 23 ans, jusqu'à l'équipa, on va espérer. Au moins, tu as une traçabilité de leur travail, ce qu'ils font aujourd'hui. Parce que les garçons, aujourd'hui, on a des outils de performance pour mesurer, étirer, calculer toutes les distances et ce qu'il fait réellement. Donc, ça permet de voir un peu son évolution, garçon. Avant, t'avais rien du tout, t'avais jamais rien. Là, aujourd'hui, ça fait quand même deux compétitions que j'entends, les 7 là, les Jeux méditerranéens, je sais plus si t'as eu 18. Donc, c'est toujours bien de voir que, mais c'est toujours à la dernière seconde, dernière minute, on voit ces choses-là. Donc, ce qui est bien, ce qui est dommage, c'est qu'on signe pas des partenariats avec la Tunisie, avec le Maroc, avec l'Égypte, avec la Libye, avec le Sénégal, le Cameroun, avec des matchs amicaux à l'intérieur, tout le temps, pour qu'on s'étalonne, pour qu'on se voit. Les Français font que ça. Les Français sachent que des U14, U13, jusqu'au U20, ils ont des matchs avec l'Allemagne, tout le temps.
D'accord.
Il y a tout le temps des matchs, tous les ans, il y a des matchs avec l'Allemagne. Et nous, on est en train de nous expliquer à nous, voilà, il n'y a rien. Et à la fin, on dit, ah, pourquoi il est blessé? Pourquoi il ne joue pas, lui? Mais c'est quoi sa visibilité, ce garçon? On ne la connaît pas. Là, quand tu connais les garçons des lycées, tu parles fonil, tu as l'attaquant, tu sais qu'il y en a un.
Oui.
Là, tu crases, tu dis, hop, on va voir. S'il y a un management qui est fait autour de lui, hop, le garçon va partir dans un club, hop, la formation va continuer.
Je te jure que Nasser, ce garçon-là, moi je ne peux pas oublier cet instant où, quand je suis parti en 2009 commenter la CAN des U17 en Algérie, il y avait à l'époque les Camerounais qui ont lancé Vincent Boubacar. Et je te jure que je compare ce garçon aujourd'hui, et ben il est beaucoup plus adroit, parce que Vincent Boubacar, quand il était en U17, comme le disait le regretté Jacques Roux, c'est les pieds carrés puissance 10. Et c'est vrai qu'il tirait 20 fois au but pour un tir cadré. Parce que j'ai vu les matchs de Vincent Boubacar quand il était en U17 chez les Camerounais. Bon, avec le temps, il a travaillé, il a progressé, il est venu en Europe, etc. On a vu le joueur que c'était. Ouais. Et ben donc, ce garçon-là, aujourd'hui, comme tu l'as dit, Nasser, si on le prend en main, oui, il pourrait faire une carrière à la Hichem Boudaoui, qui d'ailleurs qui est en train de revenir doucement mais sûrement avec le Justinis.
Oui, mais après, plus tu détectes le talent tôt, plus tu peux mettre les conditions de la réussite autour de lui. C'est comme une maladie. Plus tu la détectes tôt, plus tu as de chances de guérir. Si tu le détectes en phase terminale, c'est mort. Ben, c'est pareil pour un joueur. Si tu le détectes quand il a 23, 24 ans et que l'autre est là, et après tu vois, il y a beaucoup de manque, tu dis oui, parce qu'il n'a pas été formé.
Et visiblement, j'ai regardé quand même le physique des joueurs. C'est le seul U17 que j'ai trouvé très costaud.
Ouais.
Parce qu'il est brun. Est-ce que parce qu'il est de couleur de chez nous, puisqu'il est de Béchar, il ne faut pas l'oublier. Hein.
Ouais.
J'ai, d'ailleurs, sa maman était avec ses habits traditionnels du Sahara et tout. Elle était aussi au stade pour voir son fiston. Moi, j'ai trouvé ça génial.
Ouais, mais nous, le problème de nous, c'est que comme on est des grades petits, qu'on satisfait de tout, de rien, même les U17, on va les coller l'histoire. Pour nous, ça devrait être une information. Les U17 ont gagné la Coupe arabe. C'est coupe arabe. Hein.
Oui. C'est déjà l'UEFA et la FIFA.
Hein. Et voilà, après, c'est une ligne. On dit, voilà, son parcours, il est là. Nous, on en fait un instrument derrière en disant comme si on avait gagné. T'as rien gagné du tout. T'es toujours pas en Coupe du Monde. T'as rien du tout. T'as gagné juste un petit tournoi chez toi là-bas.
Oui.
Mais bon, voilà, faut le mettre juste à sa place. Après, si vos entraîneurs, DTN, de mettre en place, des stratégies pour confirmer le groupe, là, et l'amener à faire des oppositions, aller se frotter avec des pays en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, pour que ces garçons-là grandissent et deviennent des joueurs de haut niveau. Des joueurs de, voilà, de mais pas des, non, mais j'en plains le mot.
Oui.
Des joueurs de,
bref. Ouais. Je sais pas si, faut dire là, a le temps de chercher l'origine des joueurs là de cette sélection algérienne. Bon, je ne vais pas revenir sur les incidents de fin de match, que je trouve ça lamentable, puisque ça c'est un manque d'éducation de la part des jeunes. Et si à ce niveau-là on leur montre pas le chemin à suivre, ce serait malheureux pour la suite de leur carrière. Non, parce que par exemple le gardien de but, je sais que visiblement il joue en France puisqu'il parlait beaucoup en français. Oui, ça veut dire qu'il y a, non, pas l'attaquant, le gardien de but de l'équipe nationale. Ouais. Ça veut dire que Nasser, on a été chercher des joueurs issus de l'immigration.
Oui, ils ont pris quelques-uns, bien sûr. Ouais. Ouais. C'est clair.
Ouais.
Sinon, tu vas.
Oui, on va dire, c'est pas avec tes joueurs locaux que tu vas faire
bien
ça.
Sûr,
ouais.
Bien sûr.
Parce qu'on voit quand même qu'il y a une certaine fluidité, une certaine agressivité. Moi, j'ai vu des joueurs, c'est comme si je ne me reconnaissais pas. Dans un championnat d'Algérie, quand je voyais ces gamins-là. Ouais. Donc, il y a une touche issue de l'immigration.
Bah oui, bien sûr. Bah oui, t'as beaucoup. Ils ont pris un paquet, là. Mm. Bah, par le biais de radars, d'entreprises qui ont fait le travail il y a quelques années, là.
Oui.
Ils récupèrent encore quelques joueurs, là, bien sûr. Mm. Après, comme je te dis, c'est que la Coupe arabe.
Oui.
Que la Coupe arabe.
Oui.
C'est ce qui nous a coûté.
Oui,
la Coupe arabe là-haut.
Oui, nous a coûté la CAN et la Coupe du Monde réunies.
Compris.
Oui.
Voilà.
toujours en gardant.
Je suis pas d'accord avec vous.
Ah là, je sais bien que tu veux pas être d'accord.
Non, je suis pas d'accord parce que quand on dit que ça nous a coûté la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique des Nations, non, je suis pas d'accord parce que les joueurs quand même sont des joueurs professionnels qui ont l'habitude de s'entraîner, d'enchaîner des matchs.
Ah, bah,
non, c'est juste une excuse.
Ouais, mais la preuve.
On les voit là.
Non, mais la preuve aujourd'hui, aucun de ces joueurs n'est en forme. Hein.
Comment ça, aucun joueur n'est en forme?
Bah écoute, moi,
il est en forme.
Ah bon?
Amri, il est en forme. Raïs Mboulhi, il a trouvé un club.
Oui,
Riyad Boudé. Il a trouvé un club, oui.
Al-Qaïd Sihir, c'est ça?
Ouais. C'est un club en deuxième division.
Non, tu me le dis à Vicky René ou quoi, la Faudil?
En deuxième division,
oui.
Où ça?
En Arabie Saoudite. Normalement, il devait signer pour le CRB Bluesdale, mais finalement, ça ne s'est pas fait à la dernière minute. Ils ont recruté Azdine Doha à sa place.
Oui.
C'est bien.
Bon. Et puis, je continue toujours par rapport à ces compétitions dites régionales, parce que là, dans quelques mois aussi, va démarrer le CHAN. On sait qu'à la tête de la sélection, il y a Majid Bouguira. À votre avis, avec quel œil Jamel Belmadi va suivre cette compétition officielle de la puisque le CHAN, c'est une compétition de la Confédération africaine de football. Organisé là en 2023 en Algérie, alors que l'Algérie va jouer ce qu'on appelle des matchs amicaux. Beaucoup ont fait sortir du bruit, du genre. Mais non, pour l'instant, il n'y a qu'une rencontre qui a été officialisée, c'est face à la Guinée. La Guinée-Conakry, je précise ça parce qu'il y a deux Guinées en Afrique. Tu as la Guinée-Bissau, non, trois Guinées. Tu as la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau et la Guinée-Équatoriale. Autant pour moi. Voilà. Donc, voilà. Nous avons en direct le match de la GSK en Coupe d'Afrique.
Au Sénégal.
Au Sénégal. Ah oui, attention, l'équipe sénégalaise, elle a quand même réussi un bon parcours cette saison. Très bien. Alors, attention. Les micros, forcément, pour l'instant, vous regardez le match, je suis d'accord, mais vous êtes en pleine émission de foot et sport, donc vous suivez l'émission.
Non, mais c'est toujours aussi bien ce que tu expliques. Le problème des joueurs, j'allais dire.
Parce que là, on va arriver, Nasser.
Ouais.
On va y arriver. Nous sommes sur. Toi-même, tu me l'as dit juste avant le début de l'émission. Mmh. As-tu vu l'enchaînement des matchs en Europe? Tous les trois jours, il faut vraiment suivre.
C'est terrible.
Ouais.
C'est terrible.
Ouais.
Ça va être terrible. Non, mais tu vas avoir une première partie de saison, là, jusqu'en novembre, et après, tu en auras une deuxième. Mais j'aimerais bien voir dans quel état ils vont se relever dans la deuxième, là. Et la deuxième partie, quand il y aura après la Coupe du Monde, c'est un autre parcours qui repart. Hein.
Bon, donc, je vais te poser la question suivante, elle est toute simple.
Ouais.
On va. Bon, autant le Maroc, les autres pays africains vont jouer la Coupe du Monde, donc ils ont besoin de ces matchs. Mmh. Apparemment, c'est la dernière date FIFA avant la Coupe du Monde. Hein.
C'est la dernière, oui.
C'est la dernière.
C'est la dernière date.
Bon. Ça veut dire, Nasser, qu'à partir de fin septembre jusqu'au mois de mars prochain.
Ben rien. Ben rien de match et tout, Coupe du Monde.
Non, je te parle de la section des Fennecs.
Ben,
ils n'ont pas de match.
Ben rien du tout. Ben oui, ils vont se reposer. Ben oui, ils vont se reposer.
Non, c'est les clubs qui seront heureux.
Oui, tout le monde est heureux. Le championnat va continuer. L'équipe nationale va dormir. Elle va dormir. Voilà. Ils vont la mettre en veille.
Oui.
Tu vas faire quoi d'autre? où tu deviens un sparring partner, où tu peux devenir un sparring partner pour les autres équipes.
Mais
à la dernière minute, ouais. ils peuvent avoir aussi, tu peux être sparring partner d'un
à
pays.
À la dernière minute, quand
bah, ils peuvent demander, comme ça, les équipes qui vont jouer le Maroc, la Tunisie, ils peuvent te solliciter bien avant ou bien après que tu viennes.
C'est pas dans la fameuse semaine avant la Coupe du Monde, souvent, ils font des matchs comme ça, passe-moi l'expression, à l'arrache, quoi.
Ouais, à l'arrache, ouais.
Ouais.
Parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin d'avoir des repères sur le football africain, parce qu'ils connaissent pas, eux. C'est vrai, en plus, c'est important. Hein. Quand tu les joues, tu les reconnais pas, quoi.
D'accord.
T'es obligé de jouer avec une équipe qui joue un peu dans le même style que toi. Et au moins, ça te permet à tes joueurs d'avoir un petit peu d'automatisme. Au moins, sur le plan mental, au moins, on les imprègne. On va pas dire que ça va faire les effets là, mais ça joue beaucoup, ça, quand même. Hein. Parce qu'ils le font tous. Hein.
Ouais. Ça veut dire que la Coupe du Monde sera là. Ouais. Il y aura un arrêt des différents championnats, parce que ça va être la règle, quand même, puisque c'est imposé par la FIFA. Est-ce que ce n'est pas aussi, passez-moi l'expression, je reviens à mes premiers sujets, est-ce que ce n'est pas une bonne opportunité pour... un garçon comme Attal ou comme Slimani ou Belaïli de revenir en forme puisqu'on va leur imposer, bon, mis à part des matchs amicaux, ils ne pourront pas avoir de matchs officiels. Est-ce que cette phase de 3 semaines de Coupe du Monde ne va pas faire un bien fou à certains joueurs aujourd'hui qui sont un petit peu, qui ont le moral au plus bas?
Ouais, bien sûr. Bah oui, t'es en repos. Hein, qu'est-ce que tu veux de plus? T'es en repos. Tu dors, tu récupères, tu vas faire un footing, tu joues, tu n'as plus de pression de match, donc tu vas te reposer. Il faut surtout leur souhaiter de bien se reposer pour qu'ils arrivent dardard le jour de la préparation, quoi. C'est ça l'histoire. Il n'y a pas d'effet qui se coule. Tu te reposes. Après, si ton petit entraîneur qui vont inventer des préparations approximatives, oui, ça pourrait peut-être jouer, mais non. Je pense que s'ils ont besoin de repos, ouais. Les mecs ont besoin de relâcher, surtout le plan mental, de ne plus être en compétition, et après on va réellement les revoir là.
Ouais, c'est ça.
La reprise. Il faut savoir qu'ils reprennent quand même en décembre.
C'est ça.
Et en décembre, ça va partir sur du.
Il y a les champions qui arrivent, la Coupe de l'UEFA qui arrive, la Ligue 1, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France.
La Ligue des Nations.
Bah oui.
Ah ouais. Et donc nous, on aura, entre temps, on aura le CHAN. Alors est-ce que ce jour en début ou en fin d'année, faut-il,
je vais te donner la date,
parce que le CHAN sera organisé par l'Algérie, donc logiquement, en plus ça concerne les joueurs locaux, il n'y a aucun impact sur les joueurs qui jouent en Europe, quoi.
C'est du 8 janvier jusqu'au 31 janvier.
D'accord, merci pour l'information. Alors, mon cher Faudil, je te laisse la responsabilité, tu te débrouilles comme tu veux, voilà, je le dis en live. Pour qu'on se prépare à aller commenter ce chaîne. tu vois ce que je veux dire?
Ça serait l'idéal.
Ouais.
Pourquoi pas, nous on est prêts pour y aller. Hein.
Bien sûr.
On prendra juste coach avec nous.
Ouais. Ah oui, non, mais c'est normal. Attends, je peux pas aller faire le chaîne si le coach n'est pas présent pour commenter les matchs avec moi.
Ouais. On va commenter le... Ouais, c'est bien le chaîne.
Ouais.
Moi, je l'ai vu quand il était au Maroc.
Oui, oui.
J'ai bien aimé, moi.
Ouais.
J'ai vu le Maroc, il avait gagné en plus. Hein.
En tout cas, je dirais pas non.
Oui, bah... Au moins, tu seras dans la partie interview. Hein. Je vais te faire comme je l'ai fait à Kim. Je te colle au niveau des interviews. Bah, Kim a beaucoup apprécié. On va marquer une première pause et puis je vais quand même revenir. Alors, je vais passer à la phase Europe avant de revenir sur d'autres joueurs de la Ligue 1. Je reviendrai notamment sur la blessure de Karim Benzema. Comment, par exemple... le Real de Madrid veut la gérer par rapport à Didier Deschamps, et est-ce que nous, à notre niveau, on peut le faire quand on sait qu'aujourd'hui Jamel Belmadi n'a qu'un match amical pour l'instant à se mettre sous la dent, et il aura sûrement besoin de convoquer peut-être ses meilleurs joueurs histoire de les faire réunir, comme l'a dit coach tout à l'heure, c'est-à-dire que faire un regroupement, c'est aussi la cohésion du groupe.
Jusqu'à 20h. Foot de sport. Sur Beurre FM. Foot de sport. Revient dans un instant. Sur Beurre FM. Beurre FM. Bien plus qu'une radio. Jusqu'à 20h. Foot de sport. Sur Beurre FM.
Allez, c'est parti jusqu'à 20h en compagnie de notre coach national et de Faudil. Nous suivons ce qu'on appelle en fil rouge la première mi-temps, puisque l'émission se termine à 20h, la première mi-temps de match de la GSK en Ligue des Champions. Pour l'instant, toujours 0 partout du côté de Dakar au Sénégal. Alors, j'ai envie de revenir sur un sujet particulièrement délicat. C'est celui de la gestion des blessures. Mais ça, je le ferai juste après, puisque le cas de Benzema est un cas à part, puisque c'est quand même un joueur majeur de la sélection de l'équipe de France. Mais Nasser, toi, je sais que dans ta carrière, tu as connu de très gros soucis avec les arbitres. Comme ce sont des divisions inférieures, on dit rien. Mais là, pour une fois, c'est un président de première division qui a dit tout ce que tout le monde pense tout bas. Et le pauvre, il en a pris plein la casquette, suspendu jusqu'au 31 décembre. Je veux parler du président du Stade de Reims.
Il a dit quoi ?
Eh ben, à savoir que, ben, évidemment, il y a des grands clubs qui sont favorisés, notamment le Paris Saint-Germain, etc. et tout. On l'a vu également, les Brestois qui ont pété un câble avec l'histoire de Kimpembe, etc. et tout. Ouais. Et que si on était un joueur de Brest, tout de suite, on l'aurait mis au rouge, mais Kimpembe, on lui a rien fait, etc. Est-ce que, toi, Nasser, je sais qu'en division inférieure, il n'y a pas de caméra, on ne voit pas tout ça. Ce qu'a dit le président du Stade de Reims, c'est...
Stade de Reims ou de Brest ?
Non, de Reims. Non, parce qu'il y a eu d'abord le président de Reims qui est suspendu jusqu'au 31 décembre. Donc, on lui a collé 10 matchs. Est-ce que tu trouves la corporation, passe-moi l'expression, un petit peu clanique, renfermé dans une bulle, à qui on peut rien dire ? On dit rien. Voilà. L'arbitrage, on dit rien.
Ouais. Moi, ça me fait sourire tout ça. Moi, toutes ces choses-là, ça me fait sourire parce que j'en suis une victime, une vraie victime. C'est de 30 ans de travail, de 30 ans de boulot que je parle. Donc, je connais très bien ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Là, aujourd'hui, ceux à qui ça a profité, aujourd'hui, ça se retourne contre eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'arbitrage prend des proportions importantes, pour pas dire exceptionnelles. Et ces garçons-là, et ces hommes-là, du moins... Joue une influence terrible. Rappelle-toi, quand il y avait Lyon qui était à l'apogée, Aulas faisait des trucs de fou dans les vestiaires. Mais des trucs de fou. Et les journalistes, personne ne relate. Ça, c'est un peu comme l'histoire de qui arrive là actuellement avec la fédération, là, le Grette et tout. Là.
Oui, c'est ça. Oui. Bien sûr, oui.
Donc c'est ça, et on est au courant depuis quelques années, ça c'est pas d'aujourd'hui, mais on a décidé aujourd'hui d'en parler, hier non. Ben là c'est pareil, le président de Reims il parle d'un truc qu'on connaît, oui le PSG va être favorisé, oui le PSG a Neymar, Messi,
oui.
Mbappé, c'est du spectacle, donc ils veulent protéger le spectacle. Oui, quand tu marqueras un but il sera valable, on l'acceptera pas, et quand ils marqueront un but qui est pas valable, on va l'accepter. Eh ben, c'est aussi ça. T'as vu, on va pas parler de soumission, mais c'est aussi ça. Après qu'on parle de justice, de paix. Non, monsieur, il n'y en a pas. À ce niveau-là, il n'y en a pas. Le Real Madrid est protégé. Barcelone est protégé. Bayern est protégé. Tous ces gros clubs-là sont protégés par les arbitres. Consciemment ou inconsciemment.
Oui. Parce qu'on les retrouve tout le temps, dans les grandes compétitions.
Si tu as le prix d'aujourd'hui des télés, des abonnements, et c'est, là, oui. C'est parce qu'il y a Messi, Ronaldo, Neymar. Mmh. On voit tous leurs matchs, eux, et samedi, à l'heure qu'il faut. C'est leur boulot. Donc c'est leur boulot. Et on drive une popularité énorme. Énorme. Donc comment tu fais, toi, derrière ? Comment tu vas faire ? T'es obligé d'accepter ça. Kimpembe, tu vois, il m'attaque derrière. Lui, il sait rien.
Oui. Lui, il sait rien. Si c'était un défenseur d'une autre. D'une autre équipe de Ligue 1, bien sûr.
Il est mort. Oui, il est mort. Pourquoi on a appris quelque chose aujourd'hui. Quand il dit ça, on n'apprend rien, on le sait. Après, tu l'acceptes ou pas. Là, il a fait sa gueulante, et comme il a gueulé, ils vont prendre encore deux fois plus.
Et d'ailleurs, le président de Reims a remis en cause surtout ce côté luc-luc des cartons rouges en Ligue 1 depuis le début de saison. Ça va à une vitesse phénoménale, quoi.
Ouais. Mais c'est toujours comme ça. Les arbitres, ils inventent quelque chose à la mode. Ils mettent toujours quelque chose à la mode. Ils mettent deux jaunes, rouges,
oui.
Un truc qui leur plaît pas, rouge.
Tu touches et maintenant, jour, on arrive sur des fois dans les matchs avec deux rouges, des équipes qui elles finissent à neuf, quoi.
Il y en a plus que ça. Il y a plus que ça encore, là. Là, il y en a eu. Là, quand c'est calmé, mais les trois premières journées, je sais plus ce que j'avais
vu. Oui.
C'est comme ça qu'ils font chaque année. Ils marquent le pas. Ouais. Après, les joueurs prennent le dessus, comme d'habitude, et ça va recréer autre chose. Je sais pas quoi, mais bon, ça va recréer. Il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Mais bon. le pouvoir de l'arbitre, on le connaît. Hein.
Ouais. Et en plus, quand je dis suspendu, c'est-à-dire que lui-même, le président de Reims, le savait. Hein. La suspension, ce n'est
mais
pas...
Suspendu quoi
hein suspendu, quoi par exemple, alors des vestiaires, du banc de touche ouais. Et de toute fonction officielle.
Ouais. Ouais. Il n'est jamais sur la feuille de match.
Ouais, ouais.
Il est toujours dans sa tribune.
Donc,
et il va... Si il descend de vestiaire de ses joueurs, il va y aller. Mmh. Je pense pas que... le vestiaire d'arbitre.
Ouais. Ou alors, comme on dit dans le jargon, il va, ni plus ni moins... dans ces circonstances, déléguer son pouvoir.
Mais rien du tout, il délègue rien du tout. Il est là, dans la tribune, il règle le match. Ouais. Il règle le match. Maintenant, avant, il y a des présidents qui vont sur le banc de touche, mais il n'y en a pas beaucoup maintenant, il n'y en a plus besoin. Ils sont dans la haut, dans la tribune, et à la fin du match, il va descendre dans les vestiaires. Par contre, il ne peut pas accéder aux vestiaires arbitres. Ça, c'est clair.
Ouais.
19 cartons rouges cette saison.
Tu vas voir.
Ouais, 19 cartons rouges.
19 en ouais. 7 journées de Ligue 1.
T'as des Django, t'as des Lucky Luke là.
Mais c'est ça. Ça va.
Ouais, mais bon, moi, je regarde et je dis, c'est un effet. Ça, c'est des faits pub, ça. C'est pour montrer que.
4 pour Montpellier, 3 pour Reims et 1 pour Angers. Ensuite, tous les autres clubs de la Ligue 1. Un seul carton rouge.
Voilà. On a combien de journées ? 7ème
journée de la Ligue 1. 7ème journée de la Ligue 1.
Quand même, ça passe.
Mais tu vois, Nasser, ça y est, je retrouve la fameuse décision de la commission. Ouais. Donc, alors. C'est Jean-Pierre Caillot, hein, le président du Stade de Reims. En fait, il avait appelé l'ensemble de l'arbitrage français à se remettre en question, surtout après le nul polémique qu'il a concédé contre l'Olympique Lyonnais. Eh bien, mercredi soir, la commission de discipline de la LFP, la Ligue française la Ligue de football professionnel, a décidé de suspendre le dirigeant de banc de touche, de vestiaire d'arbitre et de toute fonction officielle jusqu'au 31 décembre prochain.
Ouais.
Voilà.
Jusqu'à la trêve hivernale.
Voilà, carrément. Alors, lui-même le disait, hein, je sais que je vais prendre cher à la commission de discipline avec tout ce que j'ai dit, mais je l'assume pleinement. Enfin, il y a quand même ce type, il dit, j'assume pleinement mes propos, ce que je dis. Je ne renie pas.
Et ça va faire quoi ?
Écoute, voilà.
Ça va faire quoi ?
Alors pourquoi ?
Ça
parce
fait
qu'il,
quoi ?
Je te dis, là, c'est parce que voilà, il était en rage après l'arbitrage de Jérémy Stina lors du dernier Reims-OL, disputé le 28 août dernier, lors duquel Jean-Pierre Caillot avait fustigé quasiment les nombreuses erreurs d'appréciation de l'arbitre. Donc, c'est quand même sidérant, Nasser, d'en arriver à ce point-là et de voir que, au fond, après, voilà, c'est toujours les mêmes, on va dire, qui payent les pots cassés. La décision, elle est prise. Donc, il reprendra ses fonctions officielles le 1er janvier 2023.
Ouais, moi, je ne suis pas étonné du tout. Le président de Reims, je ne connais même pas.
Ouais.
Mais moi, je connais ce que j'ai eu avec Reims. Je sais ce qui s'est passé, nous. Et on a vu ce qu'il y a eu à l'arbitrage. Non, bref, on ne va pas mélanger nos affaires personnelles.
Oui, oui,
bon,
oui.
Après, tu regardes, tu dis, oui, le plus petit, ben, t'es le plus petit là-haut. Tu vas pleurer parce qu'il est plus gros. Le plus gros, on met de pression sur les arbitres. Ils mettent de pression tout le temps.
Ouais.
Tout le temps. Tout le temps. Quand tu as des joueurs, quand tu as une décision arbitrale, regarde le nombre de joueurs qui se déplacent sur l'arbitre.
C'est aujourd'hui. Ça, oui, je l'ai
oui, mais c'est ça la pression. Obligé qu'ils vont la mettre. Obligatoirement.
D'accord. Bon, voilà, j'avais un auditeur, je l'ai perdu en ligne, j'étais en train de me préparer. Heureusement que dans ce genre d'émission, on a toujours ce qu'on appelle des plans B pour rebondir. Bon, quand on vous met en attente, donc on vous demande surtout de patienter, bien entendu, le temps de finir notre propos avant de vous passer à l'antenne et puis donner votre point de vue. Donc, Nasser,
oui.
Voilà, du coup, on a cette suspension. C'est vrai que c'est une corporation pour laquelle on dit rien. Ouais. C'est vrai aussi que c'est parce que c'est l'image de la Ligue 1, etc. et tout. Mais excuse-moi, quand je regarde ce qui s'est passé en Coupe d'Europe lors de Nice-Cologne, bah, je reste abasourdi. Les voyous qui sont de retour, on a l'impression qu'on n'a rien maîtrisé. Ouais. Où est la sécurité ? Il n'y a rien du tout.
Ouais, mais que te dire ? On va se mettre du coq à l'âne.
Ouais, vas-y, oui, oui.
Ouais, oui, mais vas-y. Bon, Nice-Cologne, ça va avec toute l'atmosphère qui est en place aujourd'hui. Hein. Puisqu'on démultiplie les matchs en Europe, et ben, on va démultiplier les risques de problématiques pour ces rencontres-là. Hein. Quand tu déplaces les Allemands, dans des clubs comme ça, comme à Nice, quand tu connais les supporters niçois, c'est pas la rigolade. Hein.
Apparemment, ils ont été infiltrés par des Parisiens.
Ah, ça va, c'est bon, on est dans le hyper apparemment.
Mais visiblement, c'est prouvé.
C'est prouvé par qui et comment?
Bah écoute, moi,
quoi
à travers des écrits, attention, j'ai lu.
Tu es dans une Ligue Europa, t'as je sais pas combien de Coupes d'Europe aujourd'hui.
On nous a rajouté la conférence.
Ils s'en foutent qu'il y a ça, ils s'en foutent, ça fait partie du business. Le business marche.
Oui, ça c'est vrai.
Tu comprends? Bon. Donc, quand il marche le business, c'est bon.
Bon, très bien. On va prendre sans plus tarder. Alors, c'est Abdelkrim du côté de Grenoble.
Jusqu'à 20h. Fou de sport. Sur Beurre FM.
Bonsoir Abdelkrim.
Oui, bonsoir. Salam alaikum, Azoul, à toute votre équipe.
Bonsoir Abdelkrim.
Ça va. Et puis, je ne sais pas si avec vous, c'est Sofiane Croissant.
Non, c'est Fodil.
Ah, Fodil, je connaissais pas. Donc, enchanté.
Oui. Il arrive dans l'émission, ça fait partie
nouveau,
de.
Fodil, c'est un petit nouveau.
Ah,
plein de talent, okay, il y a plein de talents et plein de.
Je viens de débarquer de Abdelkrim.
Lui et Sofiane, ça va être chaud. Hein.
Ok, ok. Non, parce que je t'ai resté sur Sofiane et bon, Nawel aussi qui venait de temps en temps, c'est pour ça que je connaissais.
Ouais, bien sûr, c'est normal. Parce qu'il y a des gens qui ont duré là depuis longtemps. Bon, il y a une nouvelle génération qui arrive. Il faut bien aussi donner sa chance à toute cette jeunesse. Et moi, c'est mon principe même dans cette émission, c'est de permettre à des jeunes talents de développer un petit peu leur façon de participer à une émission, d'analyser, et puis surtout d'être chroniqueur, apporter une valeur ajoutée à l'émission. Voilà.
Oui, oui, c'est bien aussi d'avoir des nouvelles personnes pour changer, apporter cette expérience pour eux aussi, pour commencer dans votre radio. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris là. Tout à l'heure, je vous ai écouté, vous disiez que l'équipe nationale n'a qu'un match. Elle en a deux, elle a le Nigeria le 27 à Oran aussi.
Non, le match entre l'Algérie et le Ghana pour l'instant n'a pas été confirmé. C'est ce qu'ils disent.
Oui, alors le Nigeria, pour l'instant, c'est Nigeria.
Pas le Nigeria, c'est le Ghana.
Le Ghana nous a planté. Oui. Ils ont pas tenu leur accord avec la Fédération algérienne de football. Et l'Algérie, vous pouvez voir des sites officiels comme Z-Foot et la Gazette du Fennec et compagnie, même la FAF officialisée.
Mais non, il y a
le Nigeria remplace le Ghana. C'est officiel.
Non, mais on ne l'a pas sur le site de la FAF, c'est impossible.
Moi, j'ai le match de Côte d'Ivoire. Le deuxième match de Côte d'Ivoire.
Du football algérien.
Nous, on a Côte d'Ivoire.
Vous avez dit quoi? J'ai pas compris.
Nous avons la Côte d'Ivoire.
Amiens.
Pour l'instant.
Non, la Côte d'Ivoire à Amiens, c'est la Guinée-Conakry.
Non.
Non, moi, je vous confirme. D'accord, je suis même sûr. Et je l'ai même devant moi.
Alors,
la Guinée-Conakry va jouer l'Algérie le 23 septembre à Oran. Ensuite, 4 jours après, elle affronte à Amiens l'équipe de la Côte d'Ivoire.
D'accord. Ah,
voilà.
Parce que.
Je vous dis, officiellement, c'est le Nigeria qui nous affrontera. On va pas se retrouver avec un match amical. Parce que c'est le Ghana qui n'a pas tenu son accord. Il y avait un accord de principe entre la Fédération ghanéenne et l'Algérie.
Oui, on était au courant dans un premier temps. Mais le premier match, c'est contre la Guinée-Conakry, on est d'accord.
Voilà, le premier match c'est contre la Guinée-Conakry, le deuxième c'est contre le Nigeria. Parce que la Fédération algérienne de football a été prise au dépourvu par la Fédération ghanéenne.
C'est vrai.
Du coup, on a contacté deux fédérations, la Fédération nigériane et la Fédération malienne, pour qu'un des deux remplace le Ghana. Et là, ça a été fait.
Et donc, pour toi, c'est le Nigeria comme second match. Et est-ce que
c'est pas pour moi, c'est que les sites crédibles comme la Gazette du football, la Gazette du Fennec, des Z-Foot, qui sont quand même qui pour moi sont les deux sites algériens du football algérien sur internet les plus crédibles, l'ont donné. Donc,
alors, attends, pourquoi... je donne le micro à Fodil.
Moi, j'ai juste une question pour toi, Abdelkrim.
Oui.
Pour l'instant, sur le site de la FAF, il n'y a rien. Ça veut dire, moi, je me fie amplement sur le site de la FAF, qui est la première source de l'équipe nationale. Ensuite, je me fierai sur la Gazette. Ils ont tout mon respect, mais sur les réseaux sociaux ou sur les autres sites, on a toujours tendance à tomber sur des informations. Il y a le coach qui vous dit peut-être c'est la Côte d'Ivoire, toi qui dis peut-être c'est le Nigeria pour l'instant.
Non, mais c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas possible parce que.
Laisse-moi finir.
Si vous voulez, par exemple, moi je connais un peu comme
lequel
le. En fait, je connais le site officiel du football guinéen, Foot 224. Et eux, ils parlent tout le temps de football guinéen, et ils ont annoncé le match contre l'Algérie. Et il avait même annoncé, pour vous dire, avant même qu'il y avait l'officialisation de, avant que Z-Foot et la Gazette annoncent Algérie-Guinée le 23.
D'accord.
Ce site-là. Et ils ont dit, le Sili National affrontera 4 jours après, à Amiens, en France, la Côte d'Ivoire.
C'est possible, parce que les rencontres les rencontres entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, ont souvent lieu en France. Moi-même, je me souviens, d'avoir assisté à un Guinée Côte d'Ivoire, c'était la génération Drogba contre la génération Feyenoord à Rouen, à cette époque. C'est vrai.
Oui, voilà. Et juste pour dire que le problème de le site de la Fédération Algérienne de Football, je viens d'y aller à l'instant, en fait, j'ai l'impression que des fois, il est pas à jour.
Ouais, il l'est pas, c'est sûr.
Ce site-là. Donc,
oui, oui. On va dire que les informations ne sont pas actualisées, c'est ça.
Ils sont actualisés, mais au compte-gouttes, j'ai l'impression, dans le site de la FAM. Alors que les sites sérieux comme la Gazette du Fennec et des Z-Foot t'annoncent.
Mais c'est pas de manière officielle, moi, c'est Abdelkrim, ce que je vois.
Tant que c'est pas officiel à 100%, en fait, si veux, on peut pas s'y avancer,
nous. On pourrait même dire que la Guinée-Conakry aussi, c'est pas officiel, si on part du principe que c'est des matchs amicaux.
La
Guinée, c'est officiel.
C'est officiel, la Guinée.
C'est le Ghana qui n'est pas officiel pour l'instant. Et apparemment.
Non, pas le Ghana, le Nigeria.
Le Nigeria.
Ghana, ça y est, ils nous ont planté. À la place, ils vont jouer contre le, vous allez rigoler, contre le Nicaragua qui est 130e et quel classement FIFA en Espagne.
Ah d'accord, ok.
Non, mais attends,
Abdelkrim, Abdelkrim, tu restes en ligne. Faudil va patienter. Je passe ma dernière pause de réclame et je te récupère, d'accord?
D'accord, ok.
À tout de suite, ouais.
Fou de sport, reviens dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Fou de sport sur Beurre FM.
Allez, il nous reste 10 minutes pour finir cette émission. Allez, Faudil, bon, tu dois répondre à Abdelkrim.
Abdelkrim, t'es là?
Oui, j'écoute.
Dis-moi, s'il te plaît, parce que là, j'ai vérifié toutes les sources. On est bien d'accord que le match, normalement, devait avoir lieu entre l'Algérie et le Ghana.
Oui, et les Ghanéens, oui, c'est ça.
Vas-y. Ensuite, à la dernière minute, le Ghana a fait fausse compagnie à l'Algérie, ça veut dire le match n'aura pas lieu. On est bien d'accord. Automatiquement,
voilà,
la sélection algérienne.
Après, je te dis ce que j'ai vu du côté des sites africains, ils l'ont passé par un match amical contre le Nicaragua en Espagne.
Non, mais attends. Moi, je ne me fie pas vraiment à tous ces sites-là, parce que tous ces sites, ce sont des rumeurs. Et moi, je me fie à un seul site qui est officiel, qui est le site de la FAF, dirigé par le staff technique et la fédération football algérienne, où ils ont un attaché de presse qui est payé pour ça. Ça veut dire, tant que pour l'instant il n'y a pas eu de confirmation, on ne peut pas s'y avancer. On est bien d'accord, tous les deux.
Ben oui, Abdelkrim, c'est logique.
Mais je vois mal la fédération algérienne de football sacrifier une deuxième
date. Non, mais pour l'instant, oui, mais ce que j'essaie de te dire. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est.
Ils l'ont déjà fait, attention. Ils ont déjà fait ça. Hein,
ils l'ont déjà fait. Et on a eu droit à Algérie face à l'Algérie.
Parce qu'on a quand même besoin de matchs.
Oui, mais attends, on a besoin de matchs. Mais justement, tu sais qu'il va y avoir ce qu'on appelle un vide sidéral de septembre jusqu'à mars 2023. Tu le sais bien, Abdelkrim.
Ouais, mais ça, je le sais. Ça, c'est logique. On n'est pas qualifié la Coupe du Monde.
Ouais, ben voilà.
C'est logique. Les équipes qui ne sont pas qualifiées à la Coupe du Monde ne joueront pas forcément à cette période-là.
Ouais, c'est normal. Normal.
Donc c'est pour ça. Et encore, je peux vous dire, encore sur ce que j'ai lu, le coach Jamel Belmadi compte programmer un match amical à mi-novembre contre une des fédérations qui ont contacté la FAF.
Oui, mais ça c'est ce que disait
tout à l'heure. On l'entend tout le temps, Abdelkrim, on l'entend tout le temps. Il y a toujours des fédérations qui contactent la Fédération algérienne de football, sauf qu'à la fin, on a des nations qui sont inférieures à la sélection algérienne. On est bien d'accord.
C'est-à-dire, j'ai pas compris, inférieures.
Bah, ce sont des sélections qui n'ont pas vraiment le niveau. Ce sont des sélections qui ne sont pas des sélections européennes. On a toujours tendance à jouer des matchs face aux sélections africaines. Mais c'est la vérité. Depuis presque deux ans, on n'a pas vraiment affronté une sélection, mis à part le Mexique, une sélection de haut niveau.
Et l'Iran aussi, au mois de juin dernièrement.
L'Iran.
Une équipe asiatique.
Oui, je sais, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même d'essayer d'affronter une équipe européenne. Et le dernier match face à une équipe européenne, il a eu lieu quand?
Oh là là.
Ben voilà.
Alors, il faut le chercher. Hein. C'est pas la Bosnie.
Comment? Non, mais en fait, c'est juste pour dire. En fait, je vois ce que vous dites. En fait, je pense que, en fait, le problème de la Fédération algérienne de football, c'est que, en fait, j'ai l'impression que elle programme tout le temps les matchs amicaux au dernier moment.
Alors c'est ça. Ça a été comme ça.
Qui est professionnel. Normalement, pour moi, on doit savoir même contre qui s'il y a un match amical à la mi-novembre avant la Coupe du Monde, on doit le savoir deux mois à l'avance.
Mais Abdelkrim, regarde.
Deux semaines avant, tu m'annonces, regarde.
Abdelkrim.
Avec l'histoire du Ghana.
Abdelkrim, regarde par exemple les autres fédérations de football des pays européens. Ils ont un calendrier qui est déjà prêt. Ça veut dire la sélection.
Quasiment sur deux ans.
La France, par exemple, elle connaît maintenant tous ses matchs amicaux. Mais nous, on a toujours tendance.
Le football africain, au niveau de la programmation, le football européen, c'est incomparable. Oui.
Mais c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je te dis que la Fédération algérienne de football doit quand même essayer de s'intéresser à une fédération européenne pour essayer d'organiser un match, déjà pour juger le niveau de leur groupe, essayer de donner leur chance à certains joueurs qui commencent à émerger, qui sont jeunes et qui commencent quand même à confirmer dans leur club, et essayer de tourner cette page post-mondial, parce que c'est un match qui va nous rester à travers la gorge tout au long de notre vie. On est bien d'accord,
oui.
Abdelkrim.
Ah oui.
Ah oui, je suis d'accord avec toi.
Et nous, malheureusement, c'est ça notre problème, c'est qu'on reste toujours à la dernière minute. Et regarde, là, on sait tous que le match Algérie-Ghana aura pas lieu, mais on connaît pas notre adversaire. Alors que nous sommes à même pas 15 jours du match.
Oui, c'est ça, absolument. Merci Abdelkrim.
Attends, ouais, si je peux me permettre, faut dire.
Rapidement, oui, parce que là, il me reste.
Officiellement, vous connaissez pas, mais moi, je vous dis, ce sera le Nigeria. Et vous verrez, on en reparlera. Une semaine avant le match.
J'espère bien, parce que le Nigeria, c'est quand même un bon adversaire.
Bah oui, c'est costaud.
C'est costaud, c'est une équipe qui a de l'expérience, que nous avons déjà affronté en 2019. C'est un adversaire.
En 2020, on les a joués aussi en match amical, on les a battus en Autriche à 0.
Oui, voilà. Ça veut dire que c'est un adversaire que nous connaissons. En plus, c'est un adversaire.
C'est un gros calibre.
Et c'est un adversaire qui nous réussit souvent. On les a battus deux fois consécutives. Et j'imagine que c'est un bon match. Mais le fait, quand même, de toujours s'intéresser aux sélections africaines, au bout d'un moment, il faut quand même essayer de s'intéresser aux sélections européennes.
Alors, pour faire vite, après, je vais vous laisser. Juste pour vous dire, en fait, ce que tu viens de dire, Foudil, c'est ce que j'avais dit. Et ça, je pense, Nasser et Mohand, ils ne me diront pas le contraire. C'est ce que j'avais dit l'année dernière, qu'il fallait arrêter de jouer les matchs amicaux contre des équipes du continent, parce que déjà à la base,
on les joue tout le temps
dans cette confédération africaine. Donc, si les matchs amicaux, on peut choisir notre adversaire. Donc, j'avais dit, tant qu'à faire, je veux contre des équipes non africaines.
Oui, ben ça fait partie des négociations.
Ce que je disais.
Ouais.
Comme quoi, pourquoi surjouer des équipes africaines alors qu'on
les joue tout le temps avec
On pourrait jouer des équipes européennes, asiatiques, sud-américaines pour voir un autre football, un style de jeu.
Ah, je suis d'accord. Écoute, là-dessus, on est entièrement d'accord, Abdelkrim. Moi-même, je suis partisan cet échange avec d'autres continents.
Si on regarde notre voisin.
Je donne un exemple. Par exemple, je sais qu'on a une grosse communauté au Canada. Par exemple, un Canada-Algérie ou Algérie-Canada, ça serait
une
communauté là-bas. Pourquoi toujours jouer contre des équipes africaines alors qu'on est forcé de les jouer en match officiel?
Ouais, c'est vrai.
Donc, donc tant qu'à faire. Et franchement, je trouve que c'est mieux. Par contre, la seule chose que je veux dire, c'est dommage quand même d'avoir. Après, je sais pas comment ça s'est passé. Apparemment, c'était un accord entre deux fédérations. Mais je reste un peu sur ma faim pour le premier match amical qui est officiel contre la Guinée-Conakry. Parce qu'actuellement, c'est vraiment une équipe très, très, très moyenne qui n'a été incapable de gagner un match en éliminatoire de la Coupe du Monde dans sa poule. Elle a été accrochée contre des
ouais, après,
Guinée-Bissau, Soudan. J'aurais préféré, comme à la place de la Guinée, une équipe non africaine, si c'était possible. Si c'était une équipe africaine, j'aurais préféré une équipe africaine plus forte que la Guinée.
Ouais. Ok, bon. D'accord, Abdelkrim. Merci.
Je vous laisse, allez. Bonsoir à tout le monde.
Merci, Abdelkrim.
Bon, il me reste. Alors, peut-être, je pense que ça doit être Malik, il me semble. Je vais voir. Normalement. Bonsoir, Malik.
Bonsoir à Mohand.
Bonsoir, Malik. Comment vas-tu?
Bonsoir à Fodil.
Bonsoir, Malik.
Bonsoir à Nasser Filila.
Filila, en Chérionos.
Il n'a pas de l'autre côté, il ne faut pas oublier il n'a
pas
de Mohand.
Non, je n'oublie pas, t'inquiète.
Voilà, il est au bled.
Ah non, ça y est, il est rentré, c'est fini.
Voilà. Avec un autre, là, l'expert algérien, la Boulhaï et tout ça. Mon nom, c'est un match amical contre la Guinée à Mohand.
Oui.
Le 23.
Ouais.
Est-ce que c'est officiel ou non?
Non, oui, c'est bon, c'est officiel,
oui. Oui, il a raison, ce qu'il a dit à Abdelkrim. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut un match amical avec une équipe d'Europe.
C'est vrai, oui, on a besoin de voir.
Qui a la Calois, si, je sais pas moi. Il y a. Non, mais il y a le Brésil. Ou après le Brésil, va jouer avec la Tunisie, je pense.
Bon. Voilà. De toute façon, nous, aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à trouver des matchs avec les sélections européennes. C'est un gros souci.
Même l'Italie ne sont pas qualifiés. Pourquoi on
ne veut pas l'Italie ne fait pas de Coupe du Monde. Pourquoi on ne fait pas un Algérie-Italie bon sang.
L'Italie.
Oui. Voilà. Ça, c'est une bonne idée, c'est vrai.
Oui, mais pour faire l'Italie, c'est très simple. Non, mais c'est pas très simple pour faire l'Italie parce que c'est une sélection qui a été sollicité par d'autres fédérations.
Je pense, ouais.
Notre problème, c'est que Abdelkrim vient tout juste de le signaler. Notre problème, on s'y prend toujours à la dernière minute. Ouais. Et quand on sollicite une fédération européenne ou sud-américaine, elle est déjà prise. Ça veut dire le calendrier est déjà pris. Ça veut dire pour.
Il faut aller à l'avance. Il faut miser à l'avance et tout ça.
C'est facile à dire qu'à faire aussi.
Ah, Malik, c'est compliqué.
Est-ce que ils ont officié pour jouer l'Algérie? pour l'Algérie. Avec
pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus. Il faut attendre la liste de Jamel Belmadi pour avoir la réponse.
Ouais. Non. Il peut faire comme l'histoire de l'Ufkir. Attention. Attention, il peut le faire.
Quand tu dis le petit, tu fais allusion à qui?
Ça veut dire quand le Fekir, à l'époque.
Ah oui, le Fekir, oui.
Il a dit oui, après il a changé de veste.
Malik, oui. Les deux histoires, c'est pas les mêmes.
On sait jamais.
Malik, les deux histoires ne sont pas les mêmes. Nabil Fekir avait choisi la sélection algérienne avant de changer d'avis pour choisir la sélection française. Il avait ses raisons que nous ignorons.
Maintenant
laisse-moi finir. Et pour Aouar, c'est lui, il a choisi la sélection française.
Oui.
Mais en revanche, il ouvre droit de changer sa nationalité sportive.
Voilà, ça c'est le droit.
Les deux choses de l'histoire ne sont pas les mêmes.
Non mais Gouiri, il a toujours
dit l'équipe de France. Attendez, moi, je veux partir. Gouiri, c'est l'équipe de France, mais il n'a pas sa place à l'équipe de France.
Ah non, aujourd'hui, il l'a pas.
100%. Ouais.
Ah, mais Gouiri, il est jeune. Ouais. Il est jeune parce que quand tu dis il n'a pas sa place, je suis d'accord avec toi.
Il y a des joueurs micro.
Malik, quand tu dis qu'il n'a pas sa place, je suis d'accord avec toi. Mais n'oublie pas que Karim Benzema, il a quel âge? Olivier Giroud, il a quel âge? Ils réfléchissent à l'avenir. C'est parce que c'est une fédération qui réfléchit à l'avenir, à long terme, pas comme nous.
Très bien, merci Malik. Ouais.
Attends.
Ça s'est pas coupé.
Hier, il a raté penalty.
Ouais, mais ça, on le sait.
Petit chat, bouge là. Il met l'argent dedans, il va ramener à Brest.
Ouais.
Le il dit, bouge là à côté avec Slimani.
Bon, écoutez, Malik, ça y est.
Allez, au revoir.
Merci.
Bon courage.
Merci beaucoup.
À dimanche prochain.
À dimanche, ouais. Essayez d'appeler plus tôt parce que là, effectivement, il me reste quelques secondes pour finir cette émission. En tout cas, la mi-temps, je suppose, Fodil 0-0 pour la GSK au Sénégal. Première bonne nouvelle. Merci également, coach. Oui. Beaucoup d'explications, notamment sur l'arbitrage, les blessures, etc. Chaque dimanche, on apprend beaucoup dans cette émission. Elle sert un petit peu.
Il nous faudrait un kiné un jour.
Ben pourquoi pas, ouais. On y réfléchit, mon cher Fodil. Merci. Rendez-vous dimanche prochain, 18h-20h, sur les antennes de Beurre FM, bien sûr.